Bonjour, Jean-Luc Gadrou avec vous sur France Culture pour Solae, le rendez-vous protestant proposé par la Fédération protestante de France. Dernier rendez-vous de cette série exceptionnelle de 4 émissions à Lourmarin en plein cœur du Festival des Arts de la Parole. C'était début juillet sur la terrasse de l'Hôtel du Moulin. Un projet né d'un lieu, d'un instant, d'une promesse, celle que la parole, quand elle est juste, vivante et partagée, peut ouvrir un monde. Artistes, penseurs, comédiens, musiciens, théologiens, élus ou bénévoles, toutes et tous sont venus me parler simplement à voix nue. Nous continuons donc ce matin avec quelques autres morceaux choisis de ces rencontres. En public, c'est le temps d'un café, un espace de rencontre où les mots prennent leur temps et leur sens. Martin Luther King, le gospel et des coquelicots. C'est le programme de cette demi-heure pour ouvrir ces discussions enregistrées à la terrasse de l'Hôtel du Moulin dans la rue du Temple à Lourmarin, en public, précisons-le encore. Nous parlons d'un homme et d'un livre qui devient seul en scène. C'est Martin Luther King, La force d'aimer, par le comédien Laurent Suire. Bonjour Laurent Suire.
Bonjour Jean-Luc.
Bienvenue pour ce temps d'un café à Lourmarin, sur cette magnifique terrasse.
Sublime terrasse, sublime.
De l'Hôtel du Moulin, jour de marché en plus. L'accordéon au loin qui nous accompagne. Enfin, une magnifique ambiance.
Ouais, c'est magnifique.
Vous êtes comédien.
Ouais.
Et vous incarnez sur scène la voix puissante du pasteur Martin Luther King, tiré de ses sermons emblématiques, La force d'aimer. Ce matin, nous aimerions explorer votre travail, l'esprit de ce spectacle, qui lie d'une certaine façon foi, justice et engagement. Pourquoi avez-vous choisi de donner vie à ces sermons et en quoi représente-t-il à vos yeux cette parole performative évoquée ici ?
C'est très simple. En fait, en 2018, je fais partie de la paroisse Saint-Marcel, dans le 5e, protestante. Et le pasteur avait fait une exposition pour les 50 ans de la mort de Martin Luther King. J'ai évidemment regardé l'exposition plusieurs fois. J'ai commencé à m'intéresser à Martin Luther King. Je connaissais déjà avant, mais à lire des livres, des biographies et... complètement par hasard, à la librairie C'est ici, je tombe sur le livre La force d'aimer, sur ses prédications d'église. Au bout de la deuxième lecture, je savais que j'en ferais un spectacle. J'avais du mal à comprendre comment on pouvait avoir autant de génie dans le côté prophétique. Ça me parlait tout de suite de plein de choses. Ça parlait effectivement du racisme, mais aussi de politique, du monde actuel.
D'engagement
complètement. Comme si c'était vraiment ce qui se passait en ce moment, ce qui s'est passé avant, ce qui se passera après.
On est dans un message universel.
Universel, complètement universel. Je trouvais ça absolument génial. Et je me suis dit, mais il faut que je le fasse, je ne sais pas comment, mais il faut que je le fasse. Donc j'en ai parlé au directeur de la Huchette, Franck Desmet.
Alors oui, quelques mots là, sur le fait que vous êtes comédien au théâtre de la Huchette.
Je suis comédien au théâtre de la Huchette depuis 2011 maintenant, la cantatrice Chauve. Voilà, donc je suis sociétaire, une petite famille, on va dire ça comme ça. Et Franck, donc, qui est le directeur.
Franck Desmet, metteur en scène,
comédien qui a déjà eu un Molière, qui était nommé encore cette année. Enfin bon, voilà, formidable homme. Et donc j'arrive avec le Martin Luther King, je lui avais acheté un bouquin pour lui. Il me dit, ah super et tout. Je dis, bah lis-le. Et il le lit, et moi je jouais dans la semaine la cantatrice, et en fait il y a le bureau en bas, et il montait tous les jours en loge, il me dit, mais c'est génial, mais tu fais l'adaptation, mais c'est super, et il me citait toutes les prédications, Et puis arrive le Covid, 2020, deuxième jour de Covid, je me retrouve tout seul chez moi, et il m'appelle, il me dit, comment ça va? Je dis, bah comme tout le monde, voilà, un petit peu, voilà. Il me dit, j'imagine que tu as commencé l'adaptation, et je venais de la commencer, donc j'ai passé tout mon Covid à faire l'adaptation du livre, quoi. Donc voilà. Pour résumer, ce spectacle, c'est le cœur de ma vie artistique, deux fois en même temps évidemment. Aussi fou que ça puisse paraître, ça me raconte moi. Pourtant, j'ai pas vécu le racisme, j'ai pas vécu moi, mais ça me raconte moi sur plein de choses, quoi. Ce qui est absolument formidable dans le texte, c'est que quand on l'écoute, on se dit c'est ce qu'il faudrait faire, on n'y arrivera pas, mais on va quand même essayer. C'est ça qui est génial, c'est le côté on va quand même essayer. Il y a un côté génial dans ce texte, voilà, qui parle de ce monde et ce qu'il faudrait qu'on fasse, et on n'y arrive pas, lui non plus, mais on va quand même essayer.
Ça me fait sourire parce que je repense à la phrase de Mark Twain qui a été travaillée par des jeunes ici, avec tout un spectacle également, jeunes d'un centre social de Marseille. Ils ne savaient pas que c'était impossible et pourtant ils l'ont fait. On est un peu dans ce registre-là. Qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on ne fait pas,
mais
l'impossible parfois nous permet d'aller de l'avant.
Absolument.
Et bouger.
Certains psychologues affirment que l'ajustement mental et émotionnel est la récompense du fait de penser et d'agir comme tout le monde. Succès, approbation et conformisme sont les maîtres mots de notre monde moderne. Mais, en dépit de cette tendance prédominante au conformisme, nous chrétiens avons mission d'être non-conformistes. Nous sommes appelés à être des hommes et des femmes de conviction, non de conformisme, de noblesse morale, non de respectabilité sociale.
Une chose en tout cas qui ressort de votre proposition théâtrale, Laurent Suire, c'est votre authenticité dans l'incarnation. Alors, ça crée un contraste puissant, à la fois un orateur enflammé, parfois très enflammé.
Très enflammé, bien sûr.
Et puis, un prédicateur de paix en même temps.
Complètement. C'est-à-dire que le début, on a voulu, avec Franck, il y a trois parties, un début très cosy, c'est-à-dire comme là, je vous parle.
Oui.
Voilà, je parle aux spectateurs pareil, comme si on était à table. Il n'y a pas le croissant, mais c'est limite. Deuxième partie, en prédication.
Alors là, c'est plus enflammé.
Là, c'est vraiment enflammé. Et une troisième partie où, ben oui, je ne suis pas Martin Luther King, évidemment. Et je passe à la troisième personne, je parle de lui à la troisième personne.
Oui.
Vous voulez vraiment quelque chose de très épuré. C'est presque, au cinéma, on pourrait dire, c'est filmé en gros plan, le moins d'effets possible.
Vous l'avez dit, présenté d'abord au théâtre de la Huchette, dans différents lieux, salle des fêtes, théâtre.
Et là, ici,
En
extérieur, c'est la première en plein air.
Et justement, je voulais votre réaction. En plein air une pièce comme celle-là.
C'était dans une cour d'école. Alors, il faut savoir en plus que Martin Luther King avait deux envies avant de devenir pasteur de profession. C'était instituteur ou avocat. Il aurait d'ailleurs fait et l'un et l'autre de
très très bien.
Donc
il y avait du sens.
Dans une cour d'école.
Mais comment vous l'avez vécu en extérieur ?
Ça, alors c'est fou parce qu'il y avait les cigales, il y avait plein de bruit, il y avait l'église, donc ça évidemment
cloche.
Ça gêne pas du tout. les cloches, ça gêne pas du tout, au contraire. Et il y a quelque chose, on prend tout.
Ouais.
C'est-à-dire le spectacle, je me suis dit dès le départ, je prends tout. Tout. Et là, en plus, depuis quelques temps, je vois les gens. À la Huchette ou à Orthez, je voyais pas les gens parce qu'il y avait la lumière.
Mais oui.
Là, je vois vraiment les gens, je peux les regarder vraiment dans les yeux.
Et ça change forcément.
Et ça change complètement. Mmh. Mais complètement. C'est vraiment quelque chose, d'un seul coup, plus avec eux, quoi.
Puisque le thème, c'est la parole performative de ce festival, sitôt dit, sitôt fait. Moi, je retiens une phrase, ne pas être un thermomètre, mais être un thermostat. En gros, c'est ce que
c'est,
dit
c'est
aussi
exactement
Martin
ça.
Luther King.
Ouais. En montant ce spectacle, ce qui n'était pas évident à la base, parce que voilà, c'est un spectacle qui parle de foi. J'ai choisi, en montant ce spectacle, d'être un thermostat, pour le coup. Chose que je ne suis pas dans la vie tout le temps. Et j'essaye maintenant de me l'imposer, de me dire, voilà.
D'essayer d'avoir une exigence.
Une exigence là-dessus, en tout cas, au moins là-dessus. Mmh. Si j'arrive là-dessus, c'est déjà bien, quoi.
Mmh. Alors, on a le bonheur aussi d'avoir à notre table, une personnalité du village de Lourmarin, c'est le pasteur du village, Stéphane Bachmann. Bonjour Stéphane.
Oui. Bonjour.
Laurent évoquait une exposition réalisée autour de Martin Luther King. C'est alors, cette exposition que vous avez dans le temple.
Exactement, c'est cette exposition qui a été réalisée à l'occasion des 50 ans, comme tu disais tout à l'heure. Et donc, ce qui est intéressant à travers les panneaux, donc ils vont rester bien sûr tout le temps du festival, mais aussi plus longtemps
pendant l'été,
le temps de cet
davantage.
Été. Donc c'est retracer des événements, des étapes un peu clés qui ont, dans la société dans laquelle était Martin Luther King, à ce moment-là, en tout cas, qui ont attiré son attention et qui ne lui ont pas permis de rester sans s'engager. Et ce sont ces moments historiques-là qui, en fait, sont un miroir pour nous. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, est révoltant ? Qu'est-ce qui, aujourd'hui, quelque part, me dérange parce que je sens bien que je ne dis rien, je n'agis pas, je ne change pas. Et donc, il y a ce courage d'être présent avec ses convictions et parfois, du coup, agir. C'est pas pour soi. C'est pour le bien commun,
pour
l'humanité.
Et j'ai une question rituelle à tous ceux qui passent derrière le micro. Mmh. Si vous deviez offrir un mot, une phrase, un vers, ce que vous voulez, fruit alors, Laurent, du texte de Martin Luther King ou de votre propre présence, de votre propre histoire, et que vous alliez le déposer là dans la tasse de nos auditeurs, qu'est-ce que ce serait ?
Eh bien, j'ai envie de dire, je vais dire trois mots, humilité, non, je vais dire quatre, humilité, joie, espérance et succès.
Et je ne vous demanderai pas de les commenter, c'est
voilà,
tout l'intérêt
voilà,
d'avoir
voilà.
les mots dans la tasse et
voilà.
d'en faire ce que l'on veut. Et vous, Stéphane, en tant que pasteur ?
Les mots que j'entends le plus dans tous les rendez-vous, ça serait liberté et aimer. C'est un moteur extraordinaire, les deux ensemble, de les conjuguer. Et finalement, pour moi, c'est ce qui est à la base de mon espérance, hein, de ma foi. Je crois en Dieu qui nous aime et qui nous laisse libres.
Comme chanter un groupe, ce sont deux mots qui vont très bien ensemble.
Il y aurait peut-être un mot. D'un seul coup, ça me fait...
Un cinquième,
mais celui-là, agapé.
Soyons généreux.
Agapé.
Agapé.
Ouais. Qui est un mot que j'aime beaucoup, d'ailleurs, dans la prononciation. Et je trouve le mot formidable, quoi.
Eh bien, merci, Laurent Suire.
Merci beaucoup.
Bonne route à vous. Et on l'espère prochainement, donc, plusieurs mois à Paris.
Absolument.
Avec Martin Luther King, La Force d'Aimer. On tiendra au courant nos auditeurs.
Bien sûr.
Et merci, Stéphane, de nous accueillir dans votre village.
Merci d'être là pour tout ce festival. Hein. Merci beaucoup.
Très bonne journée.
Merci beaucoup.
Mais, tandis que les années passaient, les mots si éloquents de Maman Polar sont revenus sans cesse donner à son âme troublée paix, lumière et direction. Dieu prendra soin de vous.
Oh, freedom. Oh, freedom. Oh.
Cette foi transforme les tourbillons du désespoir en une brise tiède et vivifiante d'espérance. Il y a une génération, on voyait sur les murs de personnes pieuses cette devise qui doit être gravée sur nos cœurs. La peur a frappé à la porte. La foi a répondu. Il n'y avait personne.
Bonjour Marilène Olivier, bonjour Élisée Guimout.
Bonjour.
Marilène, on vous a déjà entendu l'année passée, puisque vous êtes une habituée du festival. Vous revenez chaque année pour faire chanter le festival avec un stage de gospel et puis un concert dans lequel participent ceux qui ont fait le stage, c'est
ça ? Oui, c'est ça. Là, c'est ma troisième année que je reviens. Et puis ben justement, on s'est dit pour la troisième année, on va ajouter quelque chose, enfin plutôt quelqu'un.
Et c'est Élisée qui est celui qui s'ajoute à ce travail. Alors déjà Marilène, peut-être de votre part, quelques mots sur Élisée.
Alors en fait, j'ai dirigé des chorales gospel dans toutes les Bouches-du-Rhône pendant 10 ans. Et Élisée, il y a longtemps, était un choriste et soliste. Et puis en fait, quand j'ai décidé de m'installer en Gironde, j'ai cherché un chef de chœur remplaçant. Et Élisée m'avait fait part de son souhait. Tu faisais déjà ça dans les églises, hein, de faire chanter une chorale. Et donc je me suis dit, voilà, ce serait vraiment super que ce soit Élisée qui prenne la relève. Et aujourd'hui, c'est encore le cas.
Oui, c'est ça. Je travaille avec des associations et ma paroisse locale, à Marseille, à Brignoles, à La Garde.
Alors vous, Élisée, vous êtes dans une communauté adventiste, c'est
oui,
ça ?
Oui, c'est ça, c'est bien ça.
Le stage ici à Lourmarin, au festival, est-ce que vous pouvez nous expliquer sa raison d'être ? Pourquoi articuler le dire avec le faire, le chant avec l'interprétation ? C'est comme cela que les choses ont été présentées, en tout cas dans la communication autour du stage.
Oui, en fait, on a réfléchi par rapport au thème cette année. Et donc, quand on chante, pour moi, hein, c'est personnel, mais on peut chanter sans vraiment prendre conscience de ce qu'on est en train de chanter, sans vraiment savoir dire ce qu'on chante, parce qu'en plus de ça, on chante souvent en langue étrangère. Quand on chante, on est en train de faire. Et si on rentre vraiment dans l'interprétation, ce qu'on essaie de faire avec nos choristes, là, on essaie vraiment de rentrer dans le sens de ce qu'on fait pour donner du sens à nos chants, justement.
Ouais, et aussi un aspect, l'aspect de ceux qui écrivent des chansons,
ouais.
En général, rendent un témoignage. Ils disent quelque chose qu'ils ont fait, quelque chose qu'ils ont vécu.
Une expérience.
Voilà, une expérience. Ils écrivent, ils mettent des mélodies. Et nous, derrière, quand on reprend ces chansons-là, ben, on parle de ce que ces personnes ont vécu. Et c'est une façon aussi d'interpeller les gens, peut-être à goûter de cette expérience que ces gens ont eu à faire. Donc chanter, mais aussi derrière, arriver à vivre finalement les...
Une forme d'appropriation en fait, ouais. Du texte. C'est vrai qu'en plus le gospel a cette particularité, c'est que c'est devenu un style à la mode. Et tout le monde chante du gospel et parfois on se préoccupe pas vraiment des textes. On aime l'ambiance, mais en même temps le gospel parle de Dieu, parle de la foi.
Oui, parce que en fait moi quand je commence le gospel, je commence avec elle, Marilène, ouais. À Marseille. Et j'étais très très touché par sa façon de transmettre le gospel, parce qu'on prend un petit temps pour expliquer aux gens Alors, c'est des contextes laïques, hein, il faut le préciser. Ouais. Mais on prend le temps d'expliquer aux gens les paroles, le sens des paroles, l'histoire de la chanson. Et ensuite, les faire chanter. Pour que, à leur façon, ils s'approprient la chose. Et puis, s'ils ne sont pas croyants, ben, qu'ils y mettent un sens, en tout cas le leur.
Quel message pensez-vous transmettre dans cet espace de parole et de spiritualité, ici à Lourmarin, avec ces chants? Est-ce qu'il y a eu une sélection de chants particuliers, là, cette année?
Moi, personnellement, j'avais envie d'apporter de la joie et de la paix, parce que je crois qu'on en manque beaucoup, beaucoup dans notre monde.
C'est pas
actuellement.
Faux.
Donc, je crois que ça fait beaucoup de bien. C'est très simple. Ce sont des choses simples, mais qui font du bien.
Ouais, j'ai fait plusieurs choix de chansons, mais ce qui m'intéressait, c'était de dire aux gens, voilà, il faut aimer un peu plus. On a besoin de beaucoup d'amour aujourd'hui. Et une fois qu'on le chante, il faut qu'on passe à l'action, qu'on apprenne à aimer déjà dans sa propre famille, ses frères, ses sœurs, dans son quartier, dans sa ville, dans son pays et peut-être dans le monde entier. Et il faut le faire aujourd'hui. Et ça signifie prendre son propre chemin. Il y a une chanson que nous sommes en train de traverser actuellement qui dit « Now I'm on my way ». Maintenant, je suis sur mon chemin. Et je pense que c'est important qu'aujourd'hui, les personnes prennent leur propre chemin pour s'assumer et faire et dire ce qu'ils ont dans le cœur.
Bon, c'était inévitable. Hein. Vous êtes là au micro, même si on est le matin, vous allez nous chanter quelque chose, comme ça, a cappella.
Et comme je l'ai fait l'année dernière, je vais laisser Élisée, parce qu'on n'a rien prévu en duo, on n'a pas encore travaillé.
Alors Élisée, on va vous écouter. Élisée, au micro de France Culture.
Je vous fais une chanson qui est connue, hein. Amazing Grace.
Amazing Grace.
Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I do see.
Alors franchement, ça aurait été dommage de se priver de ce joli moment. Merci beaucoup,
merci
Élisée.
Merci à toi.
Un grand merci à vous deux.
Merci à toi.
Et très bon festival. Merci. Et puis Élisée, on a déjà pris rendez-vous pour l'année prochaine.
Ah, je suis là.
Au revoir.
Au plaisir.
Nous restons dans la chanson engagée, mais un autre style, une autre forme et une fleur pour symboliser tout ça, le coquelicot. Chanson et coquelicot, c'est en effet le titre d'un spectacle hommage à Anne Sylvestre. Et pour en parler avec moi, trois chanteuses, membres du collectif Éclosion 13, Dominique Sicilia, Martine Scorsese et Magali Bracono. Mais pour nous plonger dans l'ambiance de ce spectacle, écoutons-en quelques extraits.
Tiens, se dit le lac Saint-Sébastien, il s'improvise magicien, il déracine et il bétonne, ils font le vide et ils s'étonnent que les saisons aillent de travers et que s'étende le désert. Je me lève très tôt pour attraper la première messe, et dans les hôpitaux, je vais secourir les détresses. Oui, j'aime mon prochain et je m'applique à faire le bien, car j'ai un cœur très généreux. Mais j'ai l'impression, c'est curieux, ça ne se voit pas du tout, pas du tout. Ça ne se voit pas du tout.
Ce n'est que moi, c'est elle ou moi.
Et c'est l'ancêtre ou c'est l'enfant,
celle qui cède ou se défend.
Peut-être nous présenter ce collectif et comment est née l'idée de ce coquelicot visuel et poétique pour célébrer Anne Sylvestre.
J'ai connu Anne Sylvestre au Festival de chansons françaises de Barjac et je lui ai proposé d'animer des ateliers d'écriture à Fort-Calquier. Pendant 7 ans, elle est venue organiser, animer des ateliers d'écriture de chansons. Et à la fin de cette semaine-là, il y avait un concert à partir des chansons qui avaient été écrites et composées pendant la semaine. Anne Sylvestre est décédée il y a 4 ans. Et donc Magali, qui faisait partie de ces ateliers d'écriture, m'a appelée et puis m'a dit « Martine, on ne peut pas ne rien faire par rapport à ce qu'on a vécu avec Anne Sylvestre ».
Oui, il y a eu plusieurs hommages qui ont été faits, dont un à la Cigale à Paris. Moi, j'avais été le voir et je m'étais dit, nous aussi, on a notre légitimité. On l'a connue, on a rigolé avec elle, on a partagé plein de choses. Moi, je me sentais en fait de proposer cet hommage-là avec toute cette équipe. Donc, c'est comme ça qu'on a rassemblé des artistes qui ont tout de suite été d'accord. Et donc, c'est un projet collectif parce qu'on a chacun et chacune notre style et il fallait rassembler tout le monde autour d'un spectacle unique. Et donc, c'est grâce à Dominique qu'on a réussi à créer
une sorte de lien, un sens commun.
C'est un vrai spectacle en fait, avec des chansons de styles différents. On est accompagné donc par un pianiste et un accordéoniste, mais il y a aussi de la guitare, du ukulélé basse, du violon et quelques textes.
Peut-être quand même préciser ici, Anne Sylvestre, alors beaucoup de gens le savent, mais elle est souvent réduite aux fabulettes, aux chansons pour enfants, et c'est une artiste.
Mais en fait, elle a écrit 600 chansons,
et oui,
dont 300 fabulettes à peu près. En gros, ça fait 300.
Moi, je pense que je fais partie de celles et ceux qui ont été élevés à Anne Sylvestre. Moi, j'ai grandi avec les fabulettes.
Et qui l'ont découvert après, autrement.
Mais je l'ai découvert presque en même temps, parce que moi, ma mère écoutait les disques d'Anne Sylvestre.
Donc il y avait les deux.
Et ça me touchait. Mais j'écoutais ces disques-là avec beaucoup d'attention. Et donc, j'ai grandi après en écoutant son œuvre, parce que c'est vraiment une œuvre véritable. Enfin, je trouve qu'il y a une injustice par rapport à toute cette œuvre. Il y a des chanteurs masculins qu'on a beaucoup plus célébrés. Ouais. Et elle, en fait, elle parle de la vie, elle parle de la société, elle parle de tas de choses. Et nous, en tant que femmes aussi, je pense qu'il faut vraiment qu'on défende cette œuvre qui est incroyable.
Tendresse, humour caustique, et puis un véritable engagement citoyen.
C'est cet engagement social et citoyen qui touche énormément. Parce que c'est pas que de l'engagement, c'est très humain aussi. Ouais. Il y a une humanité qui se dégage de ces textes et qui touche actuellement. Il y a des gens qui la découvrent. On a rencontré, nous, quand on a joué ce spectacle-là, on a rencontré des gens qui la découvraient avec ce spectacle et qui nous disaient, mais d'où...
C'est incroyable.
C'est incroyable, d'où ça sort. Moi, j'ai rencontré Anne Sylvestre, j'étais grande ado, donc j'ai rencontré Anne Sylvestre, rencontré sa musique et ses chansons, pour justement ce côté humain et
militante.
Et militante qui m'a touchée en premier. Je connaissais pas du tout les fabulettes. Et puis quand j'ai rencontré ce groupe de chanteuses, de chanteurs et de musiciens, j'ai été aussi touchée par ce qu'ils proposaient eux. C'est eux qui portent cette parole d'Anne Sylvestre, elle passe aussi par eux. Et c'est ça qui m'a touchée en premier.
Qu'est-ce que vous souhaitez provoquer chez le public avec cette proposition artistique d'Anne Sylvestre ?
On l'a joué quand même 6, 7, 8 fois, je ne sais plus.
Une petite dizaine.
Et à chaque fois, on a une standing ovation de bien 10 minutes, un quart d'heure.
Ah oui.
C'est-à-dire que les gens, moi ce qu'on me dit, c'est qu'on est touché, j'ai pleuré, j'ai ri, voilà les retours des spectateurs qui sont unanimes. Il y en a qui reviennent pour la 4e, 5e fois voir le spectacle.
Donc ça c'est très
donc
très bon.
Ça veut dire
signe.
Qu'on on a réussi quelque chose.
Il y a un très joli livre qui existe et qui s'appelle justement « Coquelicot ». Et autre mot que j'aime. J'imagine que le titre du spectacle vient de là, naturellement.
Oui.
Il est signé d'Anne Sylvestre aux éditions Point, dans la collection Le goût des mots, où Anne Sylvestre donc invoque les mots qui la touchent et l'émeuvent. Alors moi, j'en ai retenu quelques-uns, et j'aimerais bien vous faire réagir, si vous le voulez bien. Alors, il y a d'abord Coquelicot. Alors, un petit extrait de ce qui est écrit. C'est un cri, c'est un appel, écrit-elle donc. C'est un mot de joues rouges et de courses folles dans les blés, de mollets piqués par les chardons, de roulades et de cul par-dessus tête dans le fosselé. C'est un mot claquant, insolent. Cueille-moi si tu l'oses, je me fanerai aussitôt, mais regarde, je suis Légion. Alors, sur la première partie, moi, ça m'a fait l'effet un peu de Madeleine de Proust en le lisant. On se revoit petit, avec ses coquelicots. C'est ça aussi la force des mots, comme la force d'un goût, d'une odeur, d'une bouchée dégustée.
Ouais, c'est beaucoup autour de son enfance, les mots qu'elle a choisis.
Et justement, ça rejoint nos enfances aussi, aux uns, aux autres, avec cette force d'utiliser comme il le faut les mots pour justement déclencher ses émotions.
Et d'ailleurs, le texte de Coquelicot, nous, on l'a écrit en grand et c'est un peu comme la façon dont on accueille les gens qui viennent au spectacle, comme une invitation à rentrer dans cette poésie-là.
Alors, je parlais de boucher avec la Madeleine de Proust. Il y a le mot frangipane. Et dedans, alors, c'est un extrait de l'ensemble. Aussitôt, on pense à la galette des rois. D'ailleurs, qui sait encore de quel roi il s'agit ? Ils avaient pourtant de bien beaux noms, Gaspard, Melchior et Balthazar.
Mais pauvre petite Marie, elle a dû se sentir bien seule au milieu de tous ses mâles. Pas l'ombre d'une bergère ou d'une brebis, une vache ou une ânesse aurait pu aussi réchauffer le petit, non ? Il y avait bien les anges, mais bon, heureusement l'étoile est là.
À la fois, elle utilise la poésie, il y a toujours un recul sur elle-même et un grand humour d'elle-même. Ça me fait penser que Martine le dit dans le spectacle, elle aimait pas les étiquettes, mais elle se revendiquait quand même féministe. Et pour moi, le féminisme, c'est ça aussi, c'est beaucoup utiliser l'humour comme une arme.
Ouais. Et puis, tout finit naturellement avec Amour, où là, Anne Sylvestre écrit « J'ai rien à dire » ou alors « Trop ».
Ça pourrait être effectivement un petit sous-titre du spectacle, en fait.
A cappella, en matinée, comme ça, vous pourriez chantonner quelque chose d'Anne Sylvestre ? Tout simplement.
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils ne semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons.
Bravo. Très.
Ce beau cadeau a cappella offert par Martin Scorsese et si Chansons et Coquelicots passent près de chez vous, ne manquez pas l'occasion d'aller applaudir ces artistes que j'aimerais citer pour terminer cette émission. Alexandre Afonso, Magali Bracono, Tamara Danreuter, Isabelle Desmero, Norbert Gauthier, Stéphanie Joard, Manon Morin, Riton Palanque, Martin Scorsese, une mise en espace signée par Dominique Sicilia et le son par Yann Magnan. Cette série de 4 émissions autour du Festival des Arts de la Parole à Lourmarin s'achève, mais je vous réserve encore, dans les semaines et mois à venir, 3 rendez-vous exceptionnels enregistrés sur place. Nous retrouverons les philosophes Raphaël Yeogier et Olivier Abel, la réalisatrice Stéphanie Pilonka et la comédienne Marion Combes. Restez donc attentifs au programme et à l'annonce de ces futures émissions. Et retour au gospel pour nous quitter avec un titre qu'affectionnait Martin Luther King, chanté souvent d'ailleurs lors de ses meetings par Mahalia Jackson, Joshua Fit the Battle of Jericho.
Joshua Fit the Battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua Fit the Battle of Jericho, and the walls came tumbling down. Joshua Fit the Battle of Jericho.
C'était Soleil, le rendez-vous protestant sur France Culture, proposé par la Fédération protestante de France, présenté par Jean-Luc Gadreau, réalisé par David Travailleur et avec Stéphane Touvenin à la prise de son. Cette émission est à réécouter sur le site protestantaupluriel.org, à tout moment sur celui de France Culture ou en podcast au moyen de l'application Radio France. Et puis ce matin sur France 2 à 10h dans Présence Protestante, vous retrouvez Notre Culte avec Elisabeth Valbaume et la Fédération de l'Entraide Protestante. La prédication portera sur le chapitre 3 du livre de l'Ecclésiaste, une réalisation de Jean-Rodolphe Petit-Grimeur. Mais pour le moment sur France Culture, l'émission talmudique présentée par Marc-Alain Wachnin, juste après vos informations de 9h. Et puis rendez-vous quand même la semaine prochaine, 5e dimanche du mois, pour évoquer la figure de Jésus dans la culture contemporaine. On en parlera avec Frédéric Baudin. Très bon dimanche à chacune et chacun.